comme je suis le philosophe de service, je vais essayer de faire avec vous un exercice de philosophie, c'est-à-dire de déployer une réflexion au départ d'une hypothèse pour pouvoir en débattre ensuite. Alors, les quatre points du déploiement, ce sera une définition, puis le fait de problématiser, d'essayer de sortir un problème de la définition de l'hypothèse, puis essayer d'ouvrir une perspective pour résoudre le problème qu'on a soi-même posé. Et enfin, j'ai le même souci que vous d'être concret, essayer de dégager des éléments concrets pour faire avancer les schmilblick. Alors, en préambule, comme il est toujours bon de dire d'où on parle, quelle est sa méthode, je donnerai trois éléments de situation. Le premier, c'est juste un plan personnel. J'ai mis les mains dans le cambouis, donc je suis philosophe, mais j'ai aussi mis les mains dans le cambouis. J'ai par exemple dirigé un département à la Croix-Rouge pendant quelques années, où avec ma femme, on a créé et dirigé une PME pendant une dizaine d'années. Certains des projets ont marché, d'autres ont été des échecs flamboyants, qui sont certaines épreuves. Et ça m'a rendu assez sympathique la position des Shadocks, qui dit que ce n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a des chances de réussir. Donc, méfiez-vous de tout ce que je vais vous dire. Et puis, j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui étaient des grands dirigeants, je crois, dans le monde politique ou dans le monde humanitaire. Et donc, ce que je vais vous dire part aussi de là et pas simplement des neurones et des bouquins. Le deuxième plan, c'est le plan intellectuel. Et donc là, je suis dans un autre champ que Catherine. Pour moi, l'homme est un animal politique, point barre. Et donc, l'humanité se constitue dans la communauté. Ma réflexion se situe dans le champ de la philosophie politique et même de l'anthropologie philosophique. Et puis, plus pratiquement, le point de départ et le d'où on parle, ben, c'est comme pour vous exactement. Et pour reprendre les termes d'un vers ami, je pense que nous parlons d'assis sur deux bombes, une bombe écologique et une bombe sociale. La bombe écologique, c'est le fait qu'on utilise chaque année une planète et demie à l'échelle de la Terre, et en Belgique, 4 à 5 planètes. Et la bombe sociale, c'est le fait que les inégalités réaugmentent, et qu'on sait dans l'histoire que quand les inégalités atteignent un certain niveau, ça finit par péter. Alors je voudrais mettre cette intervention sous un haut patronage, c'est toujours important d'avoir un haut patronage, je voudrais mettre cette intervention sous le haut patronage d'un immense économiste, qui est aussi un des êtres les plus riches du monde, c'est Picsou, l'oncle de Donald, qui disait, c'est très important, c'est vraiment très très important, on ne peut pas laver l'eau sale avec l'eau claire. Je vous demande de garder ça en tête, on ne lave pas de l'eau sale avec de l'eau claire. Alors l'hypothèse de départ, donc première question, peut-on diriger avec son âme? D'abord, il me semble que la question est idiote parce que l'âme, ça n'existe pas. Enfin, si on considère quand même que l'âme est ce lieu invisible, intangible, improuvable, mais qui peut être éprouvé par une intériorité et une conscience qui synthétise à la fois la connaissance, la volonté, la réflexion et l'émotion, alors la réponse elle est évidemment oui, d'ailleurs Catherine vient de le dire. Bon. La deuxième question, est-ce que la spiritualité peut aider les dirigeants à se transformer à des preuves, des difficultés? C'est pareil, en fait, on l'a tous éprouvé, et puis Catherine vient de dire oui. Donc, on va dire que l'hypothèse c'est oui, qu'on part de là. Seulement, voilà. Catherine nous a économisé de la complexité parce qu'elle a défini la spiritualité avec six points. Et en fait, elle a vraiment été d'une brutalité dans sa synthèse. À la page 67 de son livre, il y a une définition que j'aime beaucoup de la spiritualité. C'est une définition avec une case et 15 cases. C'est-à-dire une définition en 16 points. Je ne vous cacherai pas que pour le philosophe totalement coincé que je suis, c'est un peu frustrant. Et je pense qu'on peut préciser. Alors ceci me permet de faire une précaution oratoire, même si je vais avoir l'air de chambrer Catherine. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé très stimulant et aussi très gonflé. Donc déjà rien gonflé, ça c'est bien. Mais en plus, c'est stimulant et je pense que même si je prends un point de vue qui est différent du sien et qui, je pense, est beaucoup plus complémentaire que contradictoire, j'ai l'impression qu'on est payé, en quelque sorte, comme on dit en France, en termes de valeur. Donc, je vais repartir pour définir la spiritualité en moins que 16 cases. de deux auteurs, que sont Pierre Hadot d'une part, qui est un philosophe qui a travaillé surtout sur la philosophie antique et en particulier sur la philosophie comme façon de vivre, donc travaillant sur les exercices spirituels d'une part, et Michel Mélin d'autre part, qui est un philosophe français qui a travaillé pas mal sur les religions. Et puis en partant aussi des lectures des textes des maîtres spirituels, pour les appeler simplement, il me semble qu'on peut dire avec eux que la spiritualité, c'est fondamentalement assez simple, c'est une expérience de relation à une transcendance. C'est une expérience et de relation à une transcendance. Donc c'est une recherche personnelle d'intériorité qui vise une connaissance de soi en profondeur, donc ça va au-delà de la psychologie, et qui implique ce désir de se coltiner à une altérité radicale, quelque chose qui nous dépasse. Alors, une chose importante, c'est que ça se fait par le travail de l'esprit, et par rien d'autre. Donc on ne tourne pas en rond autour d'un feu de camp avec un chaman, ou on ne prend pas du LSD, ça ne fait pas partie, normalement. Et c'est ce qui amène... Donc il y a aussi la question de la maîtrise du corps et de l'esprit, et c'est ce qui donne toute l'importance aux exercices spirituels dans la spiritualité, puisque comme dit Hadot, les exercices spirituels, ce sont des pratiques qui sont volontaires, personnelles, et qui sont destinées à opérer une transformation de soi. Ça transforme la spiritualité, l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui transforme. Et donc il y a plein d'exercices spirituels différents. Catherine a évoqué la méditation, il y a différents exercices qu'on retrouve aussi bien dans les traditions orientales qu'occidentales. Parfois ça se recoupe, parfois c'est un peu différent, mais donc la méditation, il y a aussi l'examen de conscience, la maîtrise de la respiration, la limitation des désirs, l'anticipation de la mort, le regard des choses sous l'angle strictement physique et donc la conscience que ça peut pourrir, se déglinguer, l'attention au moment présent, bref, il y a toute une série d'exercices. Alors que... citerai à titre d'illustration un texte de Maître Eckhart qui dit « Et l'homme qui demeure ainsi dans un total détachement est tellement emporté dans l'éternité que rien d'éphémère ne peut l'émouvoir, qu'il n'éprouve rien de ce qui est charnel, et il y dit « mort au monde » car il n'a de goût pour rien de terrestre. » Or, tu demanderas ce qu'est le détachement, puisqu'il est si noble lui-même. Tu dois savoir ici que le véritable détachement consiste seulement en ce que l'esprit demeure aussi insensible à toutes les vicissitudes de la joie et de la souffrance, de l'honneur, du préjudice et du mépris, qu'une montagne de plomb est insensible au vent léger. Ce détachement immuable conduit l'homme à la plus grande ressemblance avec Dieu, car Dieu est Dieu du fait de son détachement immuable, et c'est aussi du détachement qu'il tient sa pureté et sa simplicité et son immuabilité. Et c'est pourquoi, si l'homme doit devenir semblable à Dieu, dans la mesure où une créature peut avoir une ressemblance avec Dieu, ce sera par le détachement. Celui-ci conduit l'homme à la pureté, de la pureté à la simplicité, de la simplicité à l'immuabilité. Il en résulte une ressemblance entre Dieu et l'homme, mais il faut que cette ressemblance soit l'effet de la grâce, car la grâce détache l'homme de toutes les choses temporelles et le purifie de toutes les choses passagères. Et sache-le, être vide de toutes les créatures, c'est être rempli de Dieu, et être rempli de toutes les créatures, c'est être vide de Dieu. Donc, j'aurais pu citer aussi des mystiques ou des maîtres spirituels asiatiques, je ne les ai pas pris pour ne pas faire trop long, mais ils disent vraiment la même chose. L'important, c'est l'expérience, c'est l'adhésion au tout. Ici, c'est Dieu, parfois c'est Bouddha, parfois c'est la fusis, la nature, mais en tout cas, c'est le tout, c'est quelque chose qui dépasse. Ça se fait par l'esprit, par la maîtrise de l'esprit, et ça implique un détachement, un décentrement. Et en fait, cette définition, elle pose un sérieux problème. Parce que ça n'engage strictement à rien en termes d'action. C'est au-delà du bien et du mal. On peut voir un autre passage de Descartes qui dit « Dieu n'opère pas semblablement dans tous les cœurs. Il opère selon la disponibilité et la réceptivité qu'il trouve. Si tel cœur contient ceci ou cela, il peut y avoir en ceci ou cela quelque chose qui fait que Dieu ne peut pas agir selon le mode plus élevé. Pour que le cœur soit disponible au plus élevé, il faut donc qu'il repose sur le pur néant. Et c'est là aussi la plus grande possibilité qui puisse être. Comme le cœur détaché se trouve au sommet, il faut qu'il repose sur le néant, car c'est là que se trouve la plus grande réceptivité. En voici une comparaison dans la nature. Quand je veux écrire sur une tablette de cire, si noble que soit ce qui est inscrit sur la tablette, elle ne peut faire que je m'en sois gêné, en sorte que je ne peux pas y écrire, et cependant, si je veux, il faut que j'efface et que je supprime ce qui se trouve sur la tablette. Et la tablette n'est jamais plus propre à l'écriture que s'il n'y a rien sur elle. De même, si Dieu doit écrire dans mon cœur selon le mode le plus élevé, il faut que sorte du cœur tout ce qui peut se nommer ceci ou cela. Et tel est le cœur détaché. Alors Dieu peut agir selon le mode le plus élevé et selon sa volonté suprême. C'est pourquoi l'objet du cœur détaché n'est ni ceci ni cela. Donc, la spiritualité dans le management, ça ne marche pas. Parce que le management, c'est ceci ou cela. Quand en plus on a les syndicats, parfois c'est ceci et cela. Donc, il y a, je pense, un vrai problème de compatibilité fondamentale entre la spiritualité et le management. Le management est dans le choix, la spiritualité est dans l'abandon et le laisser-aller et l'adhésion au tout. Donc on arrive au deuxième point qui consiste à problématiser. On voit bien qu'il y a un petit problème, alors on va le creuser. On va commencer par le creuser. Donc si la spiritualité n'est pas opérante dans le champ du management, en fait c'est même plus grave. C'est que si elle ne débouche pas nécessairement sur une action, elle peut même déboucher sur le n'importe quoi. Et pour vous en convaincre, je vais prendre un passage du journal de Etty Hillesum, qui est donc cette juive déportée à Auschwitz, qui a tenu un journal pendant le début de la guerre. J'aurais pu prendre aussi, mais pareil, pour ne pas faire trop long, je ne l'ai pas amené, un passage de Ernst Jünger, qui est un écrivain allemand, qui a vécu 103 ans quand même, et il a fait les deux guerres mondiales, la première dans les tranchées, la deuxième comme officier, et j'y reviendrai ensuite. Il soumet ceci. Bon, on veut notre extermination complète. Cette certitude nouvelle, je l'accepte. Je le sais maintenant. Je n'imposerai pas aux autres mes angoisses et je me garderai de toute rancœur s'ils ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous, les Juifs. Mais une certitude acquise ne doit pas être rongée ou affaiblie par une autre. Je travaille et je vis avec la même conviction et je trouve la vie pleine de sens, oui, pleine de sens malgré tout, même si j'ose à peine le dire en société. La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules, les pieds meurtris, le jasmin derrière la maison, les persécutions, les atrocités sans nombre, tout est en moi et forme un ensemble puissant. Je l'accepte comme une totalité indivisible et je commence à comprendre de mieux en mieux, pour mon propre usage, sans pouvoir encore l'expliquer à d'autres, la logique de cette totalité. Et plus loin. La vie est si curieuse, si surprenante, si nuancée, et chaque tournant du chemin nous découvre une vue entièrement nouvelle. La plupart des gens ont une vision conventionnelle de la vie. Or, il faut s'affranchir intérieurement de tout, de toutes les représentations convenues, de tous les slogans, de toutes les idées sécurisantes. Il faut avoir le courage de se détacher de tout, de toute norme et de tout critère conventionnel. Il faut oser faire le grand bond dans le cosmos. Alors, la vie devient infiniment riche, elle déborde de bon, même au fond de la détresse. Jünger dit à peu près la même chose, mais d'un autre point de vue. Donc, Hillesum dit, je prends tout, j'accepte tout, oui à tout, y compris à l'extermination de son propre peuple. Et Jünger dit, j'accepte tout, je prends tout, y compris étriper mes petits camarades dans les tranchées. Autrement dit, une fois qu'on adhère au tout, il n'y a plus de limite. Ni pour se protéger, ni pour attaquer. Et donc, c'est un vrai problème. La spiritualité n'est pas directement, n'est pas nécessairement lié à l'éthique au sens où on peut l'entendre au premier abord. Une autre manière de creuser le problème, c'est non pas d'approfondir la question comme je viens de le faire, mais de questionner la question elle-même.
Un truc de philosophe.
Il y a trois façons, je pense, de poser la question de la spiritualité dans le monde du travail aujourd'hui. La première, c'est pourquoi la question se pose aujourd'hui. Alors là, je vous demande de faire attention à la puissance qui vient. Pourquoi ça se pose aujourd'hui? Parce que ça ne se posait pas avant. Enfin, je pense. Catherine l'évoque, elle dit que c'est récent, la réflexion sur la spiritualité dans le monde du travail. On peut peut-être se dire qu'en effet, c'est récent parce qu'avant, le problème ne se posait pas. Parce qu'en gros, depuis 12 000 ans, on travaille tous en famille, en tribu, à proximité de la terre, à en faire sortir ce grâce à quoi on va manger. Alors, bon, okay, chez nous, ça fait quelques décennies, on va même dire deux siècles, que c'est plus tout à fait ça, mais c'est encore le cas d'une grosse partie de l'humanité. Donc, il y a eu une cohérence entre ce qu'on faisait, notre environnement familial ou chaleureux proche, notre environnement social plus large, et la nature. Et ces liens se sont complètement distendus. Il y a une coupure avec la nature, avec l'urbanisation, il y a une coupure de la communauté avec une atomisation, il y a une coupure de la famille au sens traditionnel, et il y a même une coupure souvent de soi-même, tant et si bien qu'il me semble qu'on peut dire que beaucoup d'entre nous, dans le monde du travail, sont comme des naveteurs d'eux-mêmes. Le naveteur, c'est celui qui vit quelque part, qui travaille ailleurs. Mais je pense que dans la tête de beaucoup d'entre nous, on est des naveteurs. On vit quelque part avec un certain nombre de valeurs, et puis on travaille avec d'autres valeurs. Et on fait la navette matin et soir. Une deuxième question qu'on peut poser à la question elle-même, c'est où se pose la question ? Et la question de la spiritualité semble se poser effectivement ou émerger dans le monde de l'économie. Elle se pose beaucoup moins dans le monde politique. Elle se pose la question de l'affrontement de certaines religions, de certains discours religieux, mais la question de la spiritualité ne me semble pas se poser dans le monde politique et ne me semble pas non plus se poser largement dans le monde familial. Elle se pose à titre intime pour les individus, mais pas dans ces champs-là. Donc où se pose-t-elle, où émerge-t-elle aujourd'hui de façon significative, même si c'est à la marge, c'est dans le monde économique qui est probablement le monde dominant aujourd'hui en termes d'influence. Et troisièmement, qui pose la question ? Je n'ai pas vu beaucoup d'ouvriers dans votre enquête.
Excusez-moi, quelqu'un.
La question se pose pour les dominants. Probablement plus. Donc, au terme de ce point de problématisation, je pense qu'on peut constater qu'en fait, on a deux glissements. Le premier glissement, c'est un glissement de l'éthique à la non-éthique, en dehors de l'éthique. On pensait que la spiritualité, au premier abord, et j'ai pris l'hypothèse de oui en toute bonne foi, vraiment, et aussi en m'appuyant sur ma propre expérience, comme je vous le disais, et sur le travail de Catherine, que je prends en sérieux. Il y a néanmoins, je pense, un double glissement. On n'est pas dans l'éthique quand on parle de spiritualité, on sort de l'éthique, en tout cas quand on prend la spiritualité pure ou folle, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et quand on parle de spiritualité, on ouvre la boîte de Pandore. Et le deuxième glissement, c'est le glissement de l'individuel au collectif. On peut croire que la question spirituelle, c'est une question d'individu. En fait, je crois que la question de la spiritualité, et en particulier de la spiritualité dans le monde du travail, se pose aujourd'hui dans un jeu social et dans un certain état des rapports de force. On arrive alors au troisième point, qui est la mise en perspective. Est-ce qu'on sait trouver une autre façon de regarder les choses pour résoudre le problème ? C'est-à-dire commencer par réconcilier ce qu'on a distendu, ce qu'on a séparé, à savoir la spiritualité, l'éthique et l'action, la politique. Je vous disais, en fait, il y a un problème, la spiritualité ne permet pas d'agir, elle ne permet pas de choisir ceci ou cela, comme dit Maître Eckhart. Pourtant, il faudrait bien essayer. Est-ce qu'on sait les rabibocher ? Alors, il y a une piste dont je ne parle pas maintenant, mais qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, si on en a le temps, c'est la piste bouddhiste, parce que je pense qu'il y a dans la philosophie et dans la logique bouddhiste une réconciliation possible. Mais je m'arrêterai ici à la piste de la sagesse, puisque Laurent l'a évoqué. Je fais une thèse à Louvain en philosophie. Et donc mon sujet, c'est la pensée sage. Le point de départ, c'était l'hypothèse que les sages disent tous la même chose, quel que soit le lieu et le moment dans le monde. Et donc j'ai pris cinq sages, que sont Marc Aurèle, Montaigne, Confucius, le Dalai Lama et Gandhi, qui, comme par hasard, sont tous des politiques, c'est-à-dire tous des gens qui sont dans l'action et dans le choix. Au terme de l'analyse de leur œuvre, il apparaît qu'en effet, oui, ils disent bien la même chose, tous. Et l'essentiel de ce qu'ils disent, ça tient en quelques traits. D'abord, il y a la volonté d'être un type bien. Donc ce qui compte pour eux, c'est pas d'être riche, d'être célèbre, d'être machin, de passer à la télé, c'est d'être un mec bien. La deuxième chose, c'est d'accepter le flux et d'adhérer au flux. Et donc il y a ce lâcher prise. La troisième chose, c'est d'avoir une maîtrise de soi-même, de son corps, de son esprit. La quatrième, c'est d'accorder très très grande attention au langage et à la pensée. Comme notre corps est ce qu'il mange, notre esprit est ce qu'il pense, et notre vie est ce que notre esprit pense. Puis il y a l'évidence du politique, la question ne se pose même pas. Oui, nous sommes des animaux politiques, et donc on fait avec ça. Et puis le dernier point sur lequel ils sont, me semble-t-il, tous d'accord, c'est l'attention à l'autre, certes, mais aussi aux plus fragiles et aux plus démunis, qui doit d'une certaine manière être la jauge. C'est au départ de là qu'on veut. Et donc on se rend compte qu'en fait on a aussi la contradiction. La contradiction qu'on peut avoir entre la spiritualité et l'éthique, on la retrouve chez eux, puisqu'on a cette contradiction entre, d'une part, l'acceptation du flux, le détachement, Marc Aurèle qui passe des heures et des heures à se dire qu'il va mourir, mon Dieu, comme tout ça est difficile. Et puis en même temps, Marc Aurèle qui est sur son cheval et qui va fiche des tripotés au Germain et qui est dans la résistance. Même chose Gandhi, qui écrit de sa plume les statuts du Congrès et qui en même temps fait des retraites sans parler et sans manger. Donc il y a cette tension. Et chez eux, ça tient. Donc si chez quelqu'un comme Ilsung ou chez Junger, ça décolle complètement et c'est irréconciliable. Si, d'une certaine façon, en théorie, ou même en pratique, on voit que la spiritualité amène à un glissement qui fait qu'on n'a plus de repères, on se rend compte que chez eux, ça marche. Alors, pourquoi ça marche? L'hypothèse que je fais, alors celle-là, ça devient vraiment une hypothèse. Donc, la communauté de leur pensée, c'est un fait qu'on peut constater dans leurs livres, qu'on peut constater aussi, je pense, assez largement dans leur vie. Par contre, ce que j'avance maintenant, c'est une hypothèse, ça se discute, c'est peut-être complètement farfelu. Pourquoi est-ce que ça tient? Pourquoi est-ce que ça ne s'écartèle pas? Et il me semble que c'est parce qu'ils s'appuient sur l'expérience, qu'ils puisent dans l'expérience du monde et d'eux-mêmes cette exigence de cohérence, de faire tenir ensemble des choses qui ne peuvent pas tenir ensemble. L'expérience de la vie nous dit que oui, il faut lâcher, il faut avoir cette aspiration spirituelle, et qu'en même temps, il faut faire avec les limites du corps, les limites de l'autre, les limites de la matière. Et donc, ça amène à penser ou imaginer qu'en fait, la sagesse a une dimension anthropologique. La sagesse, c'est pas un truc moral, c'est pas un truc philosophique, c'est pas un truc psychologique, c'est un truc anthropologique. C'est pour ça qu'ils disent tous la même chose. Parce qu'en fait, ils sont tous confrontés à la même chose. C'est des gars qui vont au bout des choses. Ils vont au combat. Ils vont au combat par rapport à eux-mêmes, et ils vont au combat politique, voire militaire. Et donc, quel que soit le moment dans l'histoire, ils sont confrontés aux mêmes limites. Et donc, ils en tirent les mêmes conséquences. Et donc s'ils disent « il vaut mieux la coopération que pas, il vaut mieux faire attention aux petits que pas », c'est pas par moralité, c'est juste parce que l'histoire nous apprend leur histoire personnelle, ce qu'ils constatent à leur époque, mais aussi l'histoire passée, et tous sont de grands lecteurs et de fins connaisseurs de l'histoire. L'histoire, l'expérience, la nôtre et celle des autres, nous apprend qu'il vaut mieux faire comme ça que pas. Alors, dans ce schéma-là, la spiritualité, elle n'est plus libre. On ne peut plus, dans un schéma comme celui-là, avoir la spiritualité d'une Ilsung ou d'un Junger. On a une spiritualité qui est tenue par les exigences de l'expérience de la condition humaine, qui exige donc qu'on fasse attention aux autres, mais aussi à soi, à la physis, etc., à son corps. Et dans ce schéma-là, on peut se dire que la spiritualité, c'est comme la voile du cerf-volant. C'est elle qui va tirer, qui va monter, qui va prendre de l'altitude. Mais on sait qu'un cerf-volant, pour que ça marche, il faut une voile, mais il faut aussi un fil. Et donc la spiritualité des sages, elle est là. et elle est compatible avec l'action, et elle est compatible avec la rigueur, et elle est compatible avec le choix, parce qu'elle est tenue. Et donc, Hilsum ou Junger, c'est très très romantique, mais c'est complètement fou, et la sagesse, je pense, parvient à réintégrer et à être comme une respiration entre le détachement et l'engagement. Et donc on ramène de cette façon-là la spiritualité dans l'éthique, mais ça se fait dans le cadre de la condition humaine, qui est fondamentalement une condition solidaire. Et on va voir que donc, je ne reviens pas juste au point de départ, c'est pas une boucle, c'est pas un rond, c'est une spirale. Donc j'ai fait un rond, mais je suis pas au même point de départ, je suis un peu à côté, et je pense que ça fait une différence. Parce que si on a une spiritualité qui est en lien avec la condition humaine, qui est une condition solidaire, on n'est plus dans le psychologique et dans l'individuel, mais on est dans le politique. Et donc le sage, c'est celui qui sait que les autres sont décisifs, et qui attendent quelque chose de lui, et donc on revient au pied de l'engagement.
Mais lequel ?
Ce sera mon dernier point, après une page de pub. Le dernier point qui serait donc le point d'appui, on pourrait dire, qui permet d'avoir une relation plus concrète. À quel engagement sommes-nous engagés par la spiritualité ainsi comprise ? Pour répondre, je reprendrai le livre formidable qui se trouve d'ailleurs à l'étage du dessous, de Judith Butler, « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» Judith Butler, qui est une philosophe américaine connue pour son travail sur la théorie du genre, et qui, lorsqu'elle a reçu le prix Adorno, a fait une petite conférence absolument brillante, où elle reprend une question d'Adorno, « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» et plus précisément, la question d'Adorno qui était « Est-ce qu'on peut mener une vie bonne dans une vie mauvaise ?» Et son point de départ, comme Adorno, c'est que la question de la vie bonne n'a de sens que collectivement. Et vous voyez en quoi c'est l'étape suivante par rapport à le point où on arrivait avec l'enchâssement de la spiritualité dans la condition humaine qui est solidaire. La question de la vie bonne, de sa vie bonne personnelle, n'a de sens que dans le cadre d'une collectivité. Ça amène Butler à poser des différentes questions comme quelles sont les conditions qui structurent nos vies, quelles sont les vies qui comptent, est-ce que ma vie fait partie de celle que la société reconnaît comme ayant une valeur. Parce que, deuxième chose importante, la société, dit-elle, et je crains qu'il nous faille la suivre, distribue la valeur de la vie de manière différentielle en affirmant certaines existences et elle utilise un terme très fort, en effaçant d'autres. Alors, comment la société efface-t-elle des existences ? Là aussi, je trouve que ce qu'elle dit est très fructueux. Les existences sont effacées parce que la vulnérabilité est transformée en précarité. Qu'est-ce à dire ? La vulnérabilité, c'est la fragilité qui est nécessaire. Nous sommes tous vulnérables parce que nous sommes tous des singes nus. On vit ensemble et on n'est pas indépendant. On peut avoir une certaine autonomie, mais on est en relation avec les autres et nécessairement, et ça nous rend fragiles, nous sommes vulnérables. Mais la précarité, c'est la vulnérabilité transformée. C'est une fragilité qui n'est pas nécessaire, c'est une fragilité qui est contingente. Nous sommes nécessairement vulnérables, mais nous sommes précarisés par des conditions sociales, économiques et historiques. Et à un certain point, dit-elle, et je crains qu'il nous faille la suivre, la précarité rend la vie totalement inviable. Et donc, si la vie et la société nous amènent à des conditions de vie inviables, pour certains, forcément les plus démunis, alors cette vie est mauvaise. Et, dit-elle, et je crains qu'il nous faille la suivre, on ne peut pas mener une vie bonne dans une vie mauvaise. Donc, si on ne peut pas mener une vie bonne dans une vie mauvaise, il nous faut résister. Donc, la spiritualité, il me semble que si on la creuse, on la prend au sérieux, elle ne va pas engager simplement à être...
Je caricature, c'est juste pour faire le méchant.
Elle est gentille avec ses collègues. Elle nous fait expérimenter authentiquement, pleinement, la condition humaine en étant cette voie de cerf-volant. Condition humaine qui est une condition solidaire, et donc elle nous engage à exiger une vie viable pour tous. Donc, la spiritualité est l'engage à la radicalité politique, associative et économique. En conclusion, je vous rappelle mon tour de passe-passe pour que on voit bien pour la conclusion. Nous partons donc de l'hypothèse qu'on peut diriger avec son âme et que la spiritualité aide à surmonter les épreuves. En fait, la spiritualité définie comme expérience de la totalité, par le détachement qu'elle nécessite, n'engage à rien du tout. Elle peut même mener à accepter ce qui n'est pas acceptable, en tout cas pour le sens commun, au meilleur sens du terme. Exemple de Hitzum ou de Junger. On croit être dans le champ éthique et en fait on a glissé en dehors du champ éthique. Alors la question de la spiritualité se pose aujourd'hui parce que le collectif s'est sans doute déstructuré et que le contact avec la nature s'est distendu. Cette question est posée dans le champ économique, productiviste, par ceux qui ont le pouvoir. Deuxième glissement, on croyait qu'on était dans le champ individuel et hop, on est dans le collectif et dans l'historique. Alors la sagesse permet de rabibocher le truc parce qu'elle permet une existence où on assume sa condition humaine dans une complexité qui permet donc de réunir spiritualité, éthique et action. Donc la politique et le management qui étaient passés par la trappe. Mais cette fois-ci dans une tension réciproque. Et cette sagesse entraîne une radicalité, faire attention aux fragiles et aux flux, c'est-à-dire refuser que la vulnérabilité ne devienne une précarité qui est inviable et que ça entraîne des vies effacées et expulsées du flux historique. Donc, question 1, peut-on diriger avec son âme ? L'hypothèse, c'était oui. Maintenant, je pense qu'en fait, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on veut diriger ? Question 2, est-ce que la spiritualité aide à transformer à l'épreuve des difficultés ? L'hypothèse, c'était oui, je crois vraiment. Mais finalement, je me dis peut-être que si on prend la spiritualité au sérieux, il faut permettre qu'on soit décalé de son une épreuve personnelle, de ces épreuves personnelles, et regarder quelles sont les épreuves collectives auxquelles on est confronté. Donc, puisqu'il s'agit de management, ce que l'exigence ou le désir de spiritualité renvoie dans les entreprises, c'est peut-être la question de la transition. Et que le problème, ce n'est pas de changer de comportement, mais de changer de modèle. Et d'avoir des entreprises qui sont compatibles avec un monde qui est viable pour tout le monde, tant sur le plan de l'environnement que sur le plan social. Alors, attention à ce que je vais dire, comparaison n'est pas raison, mais je ne dis pas ça que pour de la provoque. À Auschwitz, il y a un bâtiment qui est intéressant, tous les bâtiments sont intéressants à Auschwitz, mais il y en a un qui est particulièrement interpellant. C'est un joli bâtiment qui est la maison à l'entrée. Parce que là, vivait Eus, le commandant du camp, et que dans cette maison, il élevait ses enfants, il fêtait Noël, on jouait Bach et on lisait Goethe. Je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ce que lorsqu'on parle de spiritualité en entreprise, on ne parle pas des dirigeants Potemkin. Vous connaissez ces villages Potemkin? C'est des villages qui ont été construits de manière à ce que l'impératrice, la tsarine Catherine, trouve que les moujiks étaient bien perçus, bien traités dans son empire. Et donc quand elle a voyagé, elle a vu des jolis villages. Il faut faire attention à ce que la spiritualité en entreprise, ça ne crée pas des dirigeants Potemkin qui sont effectivement tout à fait sincères, tout à fait honnêtes dans leur démarche, mais qui cachent le reste. Et on aurait alors des dirigeants formidables, mais qui sont quand même des dirigeants de camp de travail. Vous comprenez, avec tout ce que je viens de vous dire, que je suis un marxiste convaincu. Je vais donc terminer par Marx, qui est notre dieu à tous, enfin j'espère pour vous aussi. Il s'agit de plumard de cheval, c'est bien de Groucho Marx, n'est-ce pas ? Groucho Marx qui dit « Notez bien que c'est loin d'être un imbécile ce type-là. » Il parle d'un inventeur génial. « C'est lui qui a mis au point le nouveau piège à rat monobloc sans ouverture. Quand les souris, attirées par l'odeur du fromage, s'approchent du piège, elles sont d'abord étonnées de ne trouver aucun trou pour passer la tête. Elles font plusieurs fois le tour de l'appareil, puis complètement écœurées, elles disent « que le diable l'emporte ce machin-là, allons chez la voisine, ou au moins les pièges à rats ont des trous de souris pour passer la tête. » Le rapport avec la choucroute, c'est même pas encore fixé. Si, me semble-t-il, on s'attaque au vrai problème de viabilité du monde, alors je crois que la question de la spiritualité en entreprise se dégonflera. Si le piège à fromage est étanche, les souris vont à côté. Si les problèmes de sens pour l'individu dans le monde du travail sont résolus, il regardera autre chose. Alors, oui, trois fois oui. Oui, c'est difficile. L'appel à la radicalité, c'est difficile. D'abord parce qu'on a tous des contraintes personnelles, aussi parce qu'il y a, comme dit un copain, un coup de sortie. Sortir d'une entreprise ou d'un monde économique brutal ou insensé parce qu'il ne contribue pas à la viabilité du monde, ça a un coût pour l'entreprise comme pour les individus. Et puis parce que, quand bien même on l'aurait décidé, encore faut-il être capable de choisir convenablement le lieu d'action ou agir pour être radicalement efficace et intelligent. Mais en tout cas, je pense que si on ne se pose pas la bonne question, on n'aura pas la bonne réponse. Oui, je crois comme vous à cette conviction de Gandhi, qu'on voit citer partout maintenant, c'est formidable d'avoir Gandhi à la mode. Soyez le changement vous-même que vous voulez voir dans le monde. Et ça, c'est peut-être le véritable exercice spirituel, puisque Ado nous disait le véritable exercice spirituel, c'est lorsque l'individu se replace dans la perspective du tout. Et puis, oui, enfin, on ne lave pas de l'eau sale avec de l'eau claire, mais oui, je crois qu'il reste beaucoup de sources d'eau claire, et nous en sommes tous.
C'est l'optimisme. C'est bien, c'est une note d'optimisme, quand même.
Merci à tous les deux. Je presque volé la phrase typique d'Antoine qui dirait « Tout avait bien commencé oui. » avec Catherine, et puis est arrivé Joël. Donc, il va pas nous la faire, celle-là, aujourd'hui. J'imagine que, comme moi, vous avez un peu les idées qui vont dans tous les sens. Après le gentil parcours de Catherine, et puis la déstructuration totale, mais très systématique de Joël. Alors, avant de passer à nous sustenter un peu, je voudrais inviter Jean-Paul à nous jouer un morceau. Jean-Paul, c'est à toi.